7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ici ce matin. Il est 8h45, la matinale, je vais pas dire ne fait que commencer, mais en tout cas est loin d'être terminée. Dans 10 minutes, nous pourrons entendre l'analyse de Rémy Tell. Et puis, sur la suite, donc, retrouverons Tugdual Denis. Mais auparavant, la chronique de François Blumenroder.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous recevons donc François Blumenroder. Bonjour François.
Bonjour Charles Alexandre.
Alors je rappelle que vous êtes responsable de la commission, de la communication pardon, pour, de l'Institut pour la justice. On vous écoute.
Et oui Alexandre, aujourd'hui je vais vous parler de l'élu parisien Nicolas Genté, puisqu'il a été condamné cette semaine par le tribunal judiciaire de Paris. Alors je vais vous donner la condamnation et les faits un petit peu plus tard à la fin, parce que vous allez voir c'est absolument choquant. Et alors Nicolas Genté c'est pas n'importe qui quand même, hein, puisqu'il a été ancien directeur du parti Les Centristes, et il est conseiller de Paris dans le 15e arrondissement, donc dans mon arrondissement, voilà, je suis ravi d'avoir des gens comme lui comme pour me représenter. Et donc il lui a été reproché plusieurs choses. Déjà un... la détention de contenu pédopornographique, tiens, comme par hasard, incluant des violences, attention, là c'est là où c'est choquant, sur des très jeunes enfants, dont des bébés. Donc ouais. Il y avait des vidéos comme ça sur son téléphone et sur son ordinateur.
Il y avait également... Je précise simplement, Julie Solveig en parlait ce matin un petit peu dans le décryptage, donc ne rentrons pas trop dans le détail de cette horreur. On vous écoute, hein, bien sûr, mais...
Bien sûr, d'accord.
Pour avoir les sommets d'horreur quelque part...
Voilà, c'est ça exactement. Et donc également détention de contenu zoophile et aussi l'achat et la consommation de stupéfiants. Alors de la 3MMC, bon, et du GHB. Et tout cela dans le cadre de soirées chemsex. Mmh. Et oui. Et donc bon, bah, puisqu'on peut en rajouter, il a notamment reconnu qu'il avait financé l'achat de toutes ces drogues avec l'argent des Français, avec l'argent de son mandat. Bon, bah c'est bien, encore un élu responsable, oui. qui utilise bien l'argent des Français. Non, mais alors, lors de l'audience, on a également appris une autre chose, c'est qu'il avait envoyé un message un jour, sous l'emprise de substances, et il expliquait, attention, vouloir violer un migrant de 12 ans avec un chien. Voilà, je cite, hein, voilà, donc bon, c'est quand même un fantasme assez étrange, mais bon, ce qui est particulièrement étonnant quand même, c'est que Nicolas Genté, il avait un combat, quand il était...
Dites-nous, François Blumenroder.
Son combat, c'était la lutte contre la drogue, et notamment dans les soirées chemsex. C'est quand même assez hallucinant de se dire que, bon, voilà, il s'est fait attraper pour quelque chose qu'il combattait visiblement au quotidien. Et d'ailleurs, on retrouve de nombreuses interventions hein, de sa part sur les réseaux sociaux et sur YouTube, où on le voit dire à quel point il faut mettre des moyens pour lutter contre les soirées chemsex, etc. Bon, visiblement, en fait, il savait de quoi il parlait. Bon... Il y a quelques minutes, Maître Hamas vous a beaucoup parlé de justice, j'ai écouté avec beaucoup d'attention et j'ai trouvé très juste tout ce qu'il disait. Et justement, parlons de justice et parlons de sa condamnation, puisqu'il a été condamné, donc les faits quand même assez graves, il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, obligation de soins et interdiction de travailler au contact des mineurs pendant 3 ans. Donc concrètement, Monsieur Nicolas Genté est complètement libre.
Et donc, pardon, excusez-moi, petite précision, il a été condamné donc, pour ses affaires de pédopornographie et tout ça, donc pas pour ses affaires de chemsex et d'achat de...
Si, non. En tout, c'était
en tout,
c'était
okay.
Et donc
pour tout ça, il a 18 mois de sursis.
18 mois de sursis, voilà.
Donc il n'ira pas, il ne mettra pas un pied en prison.
Il ne mettra pas un pied en prison. Et c'est d'ailleurs ce qui a choqué beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a choqué beaucoup aussi de gens qui suivent l'Institut pour la justice et qui nous ont écrit à ce sujet. Et on peut aussi également ajouter qu'il n'a aucune suppression de ses droits civiques, ce qui fait qu'il est toujours élu à la mairie de Paris. Et apparemment, il continue de siéger au Conseil de Paris. Donc voilà, donc
toucher les indemnités qui sont associées.
Exactement, probablement. Alors, il était membre du groupe Changer Paris de Rachida Dati, qui l'a, dès le début des faits, écarté évidemment de cette délégation. Exactement.
Selon les calculs qu'on a pu réussir à se procurer à Ligne Droite, ce serait 120 000 euros qu'il aurait touché donc, depuis le début de sa mise en examen il y a 3 ans maintenant 120 000 euros en tout d'indemnité liée à sa fonction de conseiller de Paris. Donc effectivement, en plus, j'ai envie de dire, il est subventionné. Enfin, on paye de tels représentants et vous payez François en tant que membre du 15e, habitant du 15e arrondissement, vous payez de telles choses. Michel Hamas disait quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est que plein de choses très intéressantes, mais une en particulier, qui était que en France, il y avait presque comme une culture latente de tolérance vis-à-vis de la pédophilie au sens large.
Ouais, je saurais pas évaluer exactement ces chiffres-là. J'ai écouté vraiment avec beaucoup d'attention ce que disait maître Hamas. Effectivement, c'était passionnant, et aussi extrêmement choquant et très très angoissant sur l'état de la protection de l'enfance en France. Après, évidemment, moi quand je vois le nombre de politiques qui sont mouillés ou de membres d'une certaine élite. Je rappelle ce juge, ce magistrat qui voulait vendre sa fille, qui a proposé à des pédophiles de vendre sa fille de 12 ans, il me semble, sur Internet. Voilà, c'est effectivement, il y a une forme d'impunité peut-être, ou en tout cas un sentiment d'impunité de la part de certaines personnes qui se permettent les crimes les plus odieux.
Et alors, il y a ça donc de la part des puissants. On peut penser aussi à des personnalités comme Jack Lang, on peut penser à des personnalités comme Frédéric Mitterrand, on peut penser aussi à Jean-Michel Bailey, qui est patron de
La Dépêche,
exactement, de La Dépêche du Midi, une sorte de baron local dans le sud-ouest, et qui lui a été accusé par plusieurs personnes de pédophilie, mais il y a prescription, donc ça ne pourra mener à rien. Dans le même genre, je voyais que l'Institut pour la Justice avait travaillé un petit peu sur la prison de Mozac, où effectivement c'est une prison qui accueille notamment des pédocriminels et en l'occurrence qui sont dans une forme de confort dans cette prison.
Ah mais alors je vais vous dire, c'est le plus marquant dans tout ça, c'est que cette prison a été conçue par l'architecte du Club Med. Et donc ça a été conçu comme un centre de vacances du Club Med. Donc il y a des reportages.
Ah, expliquez-nous un petit peu donc.
Oui, en fait il y a des reportages qui sont assez parlants, qu'on retrouve facilement sur YouTube sans problème, où on voit effectivement que les détenus ont la clé de leur cellule, les détenus ont accès à tout un tas d'activités, ils peuvent faire de la pétanque, etc. C'est assez confortable hein, finalement.
Et puis il y a pas de mur. D'enceinte, c'est ça qui est assez surprenant, c'est simplement une sorte de grillage
exactement. En fait ils sont considérés comme des détenus pas spécialement dangereux et donc les conditions de détention effectivement sont assez souples
quelque part ils sont pas violents. Donc, ça reste quand même des agresseurs sexuels, des violeurs et des pédophiles, mais ils sont pas entre guillemets structurellement animés par la violence. Donc finalement, ils sont détenus dans des conditions tout à fait agréables.
Exactement. Et en fait, dans le reportage, on les humanise presque en les faisant passer pour des gens très sympathiques, etc. Alors que derrière, ce sont des criminels qui ont violé des enfants. Et ce sont des vrais pédocriminels. Et alors, il y a une deuxième prison dans ce genre, en Corse, figurez-vous, où la prison a même une plage privée, figurez-vous. Ah oui, tout ça, vous pouvez le retrouver facilement, sans problème, sur Internet. On voit d'ailleurs les images de la plage, avec écrit « Ministère de la Justice, ne pas entrer, propriété du ministère de la Justice ».
D'accord, et donc pareil, une prison, les détenus peuvent se baigner tout simplement.
Visiblement. Ouais. Alors moi j'ai pas de photos de détenus qui se baignent, mais bon, d'accord. il faudrait vérifier ça. Mais effectivement, la prison possède une plage, voilà.
Et alors aussi dans les affaires de pédophilie, de pédocriminalité, parce que c'est un petit peu ce qui nous mène ici aujourd'hui. Dans le fond, on a quand même l'impression que ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est un sujet qui revient énormément, évidemment, avec l'affaire Epstein, mais c'est pas la seule raison, quelque part. Comment vous expliquez ce fait que ce crime de pédocriminalité devienne aussi important, justement, dans l'espace médiatique ?
Peut-être parce qu'il y a aussi des médias, effectivement, comme Radio Courtoisie, qui osent en parler, qui osent mettre les sujets sur la table, qui osent inviter aussi des personnes comme l'avocat qu'on a entendu il y a quelques instants, qui disent les termes et qui expliquent à quel point c'est une espèce de c'est un des plus grands scandales actuels de notre République. Donc moi je suis, ouais, je pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est lié à des gens qui ont du courage de parler, avec les risques que ça implique ensuite peut-être de persécution. Ou en tout cas de mise au ban de la société.
Et il nous reste deux minutes. François Bleu-Henrodeur, il y avait, je pense, aussi à un autre membre de parti politique qui, lui, a été condamné, qui est jugé justement pour des affaires. Mais voilà, on va pas rentrer dans le détail tellement c'est obscur et affreux quelque part. C'est Pierre-Alain Cotineau.
Absolument, absolument. Comment ne pas parler de lui ? Enfin, je veux dire, le détail est absolument affreux. Et pour le coup, Pierre-Alain Cotineau était pas seulement, un utilisateur, il était aussi à la tête presque d'un réseau. Il alimentait un réseau de pédocriminalité en France et même à l'international. Où effectivement, d'ailleurs, il me semble que c'est grâce à l'intervention de policiers néerlandais qu'on a réussi à lui mettre la main dessus. Donc, vous voyez, il y a vraiment des réseaux de pédocriminalité qui existent. Et ça me fait d'ailleurs repenser à l'excellent film Sound of Freedom. Que j'ai beaucoup apprécié et qui m'a retourné d'ailleurs, mais où on voit en fait que ce qui est décrit, ce qui est censé être une fiction, en fait n'est pas si éloigné que ça de la réalité. Quoi.
Oui, et puis que même on pourrait aller plus loin en expliquant que finalement, c'est même pas tant histoire de forcément de grands réseaux mondiaux, etc. En fait, c'est des choses qui peuvent arriver presque en bas de chez nous et qui peuvent arriver dans notre quartier. Bah c'est je veux dire, c'est votre cas pour Nicolas Genté. Mais voilà, mais merci beaucoup en tout cas François Bleu-Henrodeur d'avoir été présent, et que l'Institut pour la justice finalement sorte un petit peu du champ on va dire simplement de la délinquance ou de la prison, de la criminalité au sens de l'agression qu'on entend d'habitude, pour aller chercher sur d'autres champs. C'est évidemment des sujets qui touchent énormément les Français, donc merci beaucoup pour votre travail.
Merci beaucoup, et je vous le dis, on milite beaucoup pour la perpétuité à vie pour tous les violeurs d'enfants. C'est notre grand combat là des prochaines semaines.
Très bien, et ben merci beaucoup François Bleu-Henrodeur.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, j'ai le plaisir de recevoir Rémy Tell. Rémy Tell, bonjour. Vous êtes essayiste et journaliste, auteur de La chute de Prométhée, À l'encre du néant. Voilà. Enfin, nos éditeurs vous connaissent à force, étant donné que vous êtes quand même régulièrement là, ici, sur Ligne droite. Alors, le sujet que vous souhaitiez aborder dans le fond, c'était la dimension eschatologique du conflit entre les États-Unis et l'Iran. Et alors, je l'ai titré un petit peu différemment aussi, parce que je pense qu'on pourra aussi s'embarquer sur la question de la morale. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi cet angle pour aborder le conflit israélo-américano-iranien ?
Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. On m'entend bien ?
Très bien.
Bien, parfaitement. Bon. Alors, je me suis posé cette question puisque j'ai observé depuis quelques jours, avec nous, que la dimension eschatologique traverse les commentaires des uns et des autres sur le conflit au Proche-Orient. La dimension eschatologique, c'est quoi ? C'est de savoir si la fin des temps est proche, d'une certaine façon. Alors, vous pouvez ne pas le croire, mais les leaders des puissances en guerre au Moyen-Orient, eux, ensemble persuadés. Il y a deux jours, nous apprenions ainsi que plusieurs centaines de soldats américains s'étaient émus d'avoir été briefés par leur hiérarchie sur le caractère biblique, je cite, de l'opération déclenchée le 28 février dernier. Un commandant de base aurait même déclaré « Trump a été choisi par Jésus pour déclencher la bataille d'Armageddon, décrite dans l'Apocalypse de Jean comme le combat final des rois de la Terre avant le second avènement du Christ ». Côté fanatiques iraniens et israéliens, la dimension religieuse du conflit est tellement évidente que je ne m'attarde pas dessus. C'est vrai aussi concernant la réactivation des hostilités entre chiites et sunnites. Rappelons pour nos éditeurs et pour nous-mêmes, parce que ce n'est pas toujours évident, que les trois monothéismes procèdent tous d'une même souche. Abraham, père de l'alliance entre le ciel et la terre, né en Mésopotamie il y a environ 4000 ans, la souche a donné naissance à trois branches, les Juifs, descendants du second fils d'Abraham, Isaac, les chrétiens qui ont reconnu en Jésus-Christ le Messie annoncé aux Juifs dans la Torah, les musulmans, enfin, descendants du premier fils d'Abraham, Ismaël, et dont la foi se fonde sur deux négations. Premièrement, ils affirment que l'alliance de Dieu avec les hommes a été scellée par le pseudo-sacrifice d'Ismaël, et non celui d'Isaac, comme le relate la Bible. Deuxièmement, les musulmans considèrent que Jésus, qu'ils reconnaissent comme un prophète, ne serait pas mort sur la croix, mais aurait été remplacé par une sorte de doublure, un faux semblant, pour reprendre les termes du Coran, et que Mahomet, donc, serait le dernier prophète. Tout cela pour dire quoi, cher Alexandre? Tout cela pour dire qu'il s'agit de la même histoire, interprétée de trois façons différentes, et que ces trois visions du salut humain convergent aujourd'hui sur une certitude: le temps présent n'est plus politique, mais eschatologique, en ce qu'il constitue un point de bascule dans la relation entre Dieu et son peuple, arrivée du Messie pour les Juifs, retour sur terre de Jésus pour les chrétiens et les musulmans. Et oui, je le répète, dans le Coran, la fin des temps correspond au retour sur terre de Jésus-Christ. Alors pourquoi maintenant, me direz-vous? Parce que les croyants de toutes sortes considèrent que les signes annoncés sont là: retour du peuple élu en Israël pour le judaïsme, corruption morale, guerre et apostasie pour le christianisme et l'islam. La période de 7 années de tribulation, décrite dans le livre de Daniel et qui nous renvoie au début du Covid, ajoute à cette atmosphère particulière, de même que les révélations de tous ordres survenues au cours des dernières semaines, le dossier Epstein, la vie extraterrestre dévoilée par le Pentagone, les derniers pas vers l'intelligence artificielle intégrale, Apocalypse, Apocalyptein en grec, c'est la révélation.
Tout à fait.
Ajouter les phénomènes cosmologiques récents, et Carl Jung a écrit un sujet sur les liens entre la Bible et les phénomènes cosmiques, l'assèchement de l'Euphrate, l'intense activité sismique ou l'explosion des conversions au catholicisme. Mmh. Alors, quelles conclusions en tirer? Il y aurait tant à dire, mais à notre modeste niveau, nous qui ne sommes pas théologiens, commençons peut-être par plaider le discernement. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ceux qui jouent à la guerre aujourd'hui précipitent peut-être la fin du monde tel que nous le connaissons, mais ils le font à leurs dépens. Et sur ce point, la Bible est très claire, ce sont les esprits impurs qui, par le mal qu'ils commettent, forceront l'intervention du Très-Haut. En cela, s'imaginer comme Donald Trump, oint par le Christ pour mener une guerre nucléaire, est un odieux blasphème, même si celui-ci pourrait paradoxalement valider les Saintes Écritures. Et nous, pauvres mortels, prenons peut-être garde de ne pas trop alimenter ce feu, mais au contraire de préparer nos cœurs. En ces temps de carême, l'occasion est toute trouvée.
Eh bien, merci Rémi Tell pour cette, on va dire, cet angle surprenant quand même, effectivement, sur cette dimension du conflit. On parle évidemment, je lisais aussi d'aucuns prophétiser le retour de Gog et Magog, effectivement, donc en référence à aux personnes censées déclencher effectivement la fin des temps pour dans je crois que c'est dans la Kabbale, il me semble, mais d'une certaine façon, la raison pour laquelle je voulais aussi lier ça à la morale, c'est que chaque camp, on va dire, a effectivement une vision d'anéantissement de l'autre. On a l'impression que effectivement du côté iranien, c'est soit nous trouvons le salut dans cette guerre et nous arrivons à vaincre l'ennemi mortel, donc en l'occurrence Israël, soit à ce moment-là nous devons tous périr quelque part dans le feu. Côté israélien, il y a aussi évidemment, il y a même presque pas besoin d'en parler, cette dimension d'anéantissement des ennemis, pour absolument que, eh bien, eux qui, en tout cas, se voient comme les habitants de la terre promise, et pour les juifs comme le peuple élu, évidemment que de leur survie est absolument nécessaire à l'humanité, etc. On a l'impression que, d'une certaine façon, toute guerre qui devrait arriver aujourd'hui est nécessairement une guerre d'anéantissement, spécialement dans cette région.
Alors, il y a quelque chose de très marquant, c'est que peut-être pour la première fois dans l'histoire des conflits modernes, vous avez l'affrontement de puissances qui sont dotées nucléairement parlant. Et pour le moment, est l'affrontement direct. Même si l'Iran était peut-être à quelques pas, mais en tout cas, possède des technologies capables d'une destruction totale d'Israël, par exemple, et de destruction très importante, quand bien même elle ne serait pas de nature nucléaire. Et donc, pour le moment, on a cet affrontement entre des puissances dotées mais qui persiste dans un caractère conventionnel. Mmh. Et pour autant, la doctrine militaire, la théorie militaire, nous explique bien que les armes qu'on possède, on finit toujours par les utiliser à un moment ou à un autre. Mmh. Et on va se retrouver dans cette fameuse théorie des jeux, où sachant que l'adversaire est capable de le faire, faut-il le faire soi-même ou pas ? Mmh. Et a priori, sans me faire prophète laïque de l'Apocalypse, il est très probable que cette affaire finisse très mal. Parce qu'effectivement, il n'y a pas de compromis possible. Chacun estime avoir raison, et en cela, chacun a tort. On ne peut pas donner raison au régime des Mollahs qui a massacré des dizaines de milliers d'Iraniens après avoir soutenu le Hezbollah et un certain nombre de milices dans les attaques contre Israël et cette félicité du 7 octobre. On ne peut pas donner raison à Israël qui a massacré la population de Gaza et qui continue à déstabiliser la région au nom d'une religion religieuse. Et on ne peut pas évidemment donner raison à l'Amérique trumpiste qui, dans une hérésie d'ailleurs, dont on pourra peut-être reparler, s'imagine parler au nom du Christ en envoyant des bombes sur les uns et sur les autres.
Justement, il y a quelque chose quand même que je voudrais aborder, c'est que évidemment les conflits entre les États, les conflits militaires, c'est une tautologie que le diable ont toujours existé. Dans le fond, effectivement, il y a toujours eu des conflits qui comportaient une certaine violence. Et d'ailleurs, les guerres saintes ne datent pas d'hier. C'est d'ailleurs quelque chose qui était extrêmement présent jusqu'à récemment. C'est un argument qui était aussi utilisé par dans la rhétorique du Kremlin, justement dans son combat contre l'Occident, en expliquant que l'Occident était décadent et que eux étaient justement les porteurs de la morale, etc. Mais je voudrais même rentrer à l'intérieur des États et plus spécialement aux États-Unis, où on a l'impression que aujourd'hui les démocrates comme les républicains sont arrivés à un tel niveau de polarisation que le mélange entre eux n'est plus possible, quelque part. Et puis, le deuxième élément, c'est que, en fait, il y a presque des réalités parallèles et une volonté, de considérer l'adversaire politique comme un ennemi qui ne peut, in fine, ne mener qu'à la guerre civile. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez effectivement les woke, donc pour prendre la frange la plus radicale de la gauche, qui considèrent que effectivement tout ce qui est à la droite de Joe Biden est fasciste. On a le même souci en France. Et puis d'un autre côté, vous avez les Trumpistes qui sont complètement rentrés dans cet engrenage, avec Donald Trump effectivement qui a une rhétorique malgré tout ce qu'on peut, même malgré le fait que certaines personnes puissent l'apprécier par ailleurs, mais une rhétorique extrêmement violente vis-à-vis de ses adversaires politiques. Donc on a l'impression d'une polarisation absolue et de passer d'un système de démocratie, de dialogue, à un système de combat permanent.
Oui, parce que la démocratie suppose un référentiel commun qui n'est pas l'accord politique, mais de se raccrocher à une certaine raison sur laquelle tous se mettent d'accord, par exemple sur le fait de respecter le principe de non-contradiction. Vous voyez, on ne peut pas, comme LFI, accuser tout le monde d'être des nazis et puis en même temps faire des blagues antisémites. Ça, c'est le non-respect du principe de contradiction. Et quand on ne respecte plus ce principe de non-contradiction avec soi-même, le débat démocratique devient impossible et l'adversaire se transforme effectivement, comme vous le décrivez, en ennemi. Et ça, on le voit bien dans les tensions internes à ces puissances aujourd'hui qui mènent la guerre. Et forcément, quand vous y ajoutez une part de croyances religieuses, eh bien, il y a une sorte d'amplification de ce phénomène. Et dans le monde catholique, on a su concilier la question de la foi et de la raison avec saint Thomas d'Aquin, qui parle aussi, par exemple, de cet enjeu de la guerre juste. On pourra y revenir. Et dans la sphère protestante, si vous voulez, et là évangélique américaine, on a l'impression que la raison a complètement quitté le débat public. Enfin, quand vous regardez Paula White, qui est la chargée des questions de foi auprès de la Maison Blanche, il y avait quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec la Bible et avec le Christ, et tout avec le délire quasiment psychiatrique. Hein. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a donc, pour rebondir sur votre deuxième interpellation sur la guerre juste, Vous savez qu'il y a un grand donc, théoricien qui est Saint-Thomas d'Aquin, qui a été repris par Grotius et Pythagore, qui définit des critères somme toute assez larges en réalité.
On vous entend mal, Rémy Tell. Peut-être réessayer. Non.
Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça va mieux?
C'est encore un petit peu... un petit peu compliqué, peut-être vérifier votre connexion un instant de mon côté. Je vais, j'ai envie de dire, essayer de trouver de quoi, j'ai envie de dire, plaire aux auditeurs par mes mots. Mais c'est vrai que, d'une certaine façon, ce qu'on peut observer même dans la société française, c'est qu'il existe une forme de polarisation qui vient une rhétorique de l'ennemi. Évidemment, la rhétorique pour la gauche est très simple. C'est la gauche d'ailleurs, enfin, qui érige en religion presque le marxisme. D'un certain côté, c'est effectivement la première étape, c'est traiter tout le monde de fasciste, considérer que le fasciste veut notre anéantissement et que le seul moyen de survivre, c'est l'anéantissement du fasciste. Donc, à partir de ce moment-là, eh ben, en fait, on est obligé de rentrer dans cette rhétorique de l'ennemi. Mais je reviens à vous, Rémy Tell, je crois que vous êtes de retour parmi nous.
Oui, oui. Pour vous dire donc, qu'il y a un grand théoricien de la guerre juste, qui est donc Saint Thomas d'Aquin, qui avait été repris par Grotius et Vittoria au XVIe et XVIIe siècle, et qui définit pour la guerre juste des critères, trois critères, que j'ai retrouvés pour vous en amont de cette émission, je ne les connaissais évidemment pas par cœur. L'autorité légitime, donc une milice privée ne peut pas déclencher la guerre, il faut que ce soit un gouvernement démocratiquement élu, ou en tout cas reconnu comme légitime, quand bien même ce serait par onction divine. Une cause juste, par exemple, récupérer un territoire pris par la force ou protéger la population normale. Et enfin, une intention droite, c'est-à-dire la perspective finale de la paix et de la réconciliation. Et c'est sur ce dernier point où il y a très clairement, là, du côté américain, du côté israélien et du côté iranien, un problème. Puisque, comme vous l'avez dit, l'intention finale n'est pas celle de la paix, mais celle de l'anéantissement de l'adversaire. Et donc, on est là complètement en dehors du cadre de la guerre juste, et ça fait quand même doucement rire de voir les Américains se prévaloir des évangiles pour déclencher les hostilités et alimenter le feu au Proche et au Moyen-Orient.
Alors, d'un autre côté, se pose, je vais remarquer le sujet peut-être sur un autre sur une autre dimension, mais que je trouve aussi intéressante d'un point de vue similaire, c'est cette idée que est-ce que, selon vous, à partir... Vous parliez de Saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin explique justement qu'à partir du moment où un peuple est gouverné par un tyran, il a le devoir de se rebeller contre son tyran. C'est ce qu'ont essayé de faire les Iraniens, sauf que les Iraniens se trouvaient dans une situation telle que, eh bien, le régime était encore trop fort et les a massacrés par dizaines de milliers. Je crois qu'on compte à peu près 30 000 morts sur ces manifestations. Est-ce que il n'est pas du devoir, justement parce que le christianisme est un universalisme, je le rappelle dans le sens moral, est-ce qu'il n'est pas du devoir d'autres États, d'une certaine façon, je ne dis pas nécessairement pas la guerre, mais d'une certaine façon, d'aider les Iraniens à faire tomber le régime en place au risque de créer de l'instabilité?
Alors effectivement, Saint Thomas d'Aquin légitime ce qu'il appelle le tyrannoctone, c'est-à-dire la mort du tyran. Revenons, puisque vous parlez du christianisme, le christianisme pèse la question des intentions. Et si l'intention des parties prenantes était uniquement de se débarrasser du régime iranien, ce serait sans doute une opération légitime. Or, nous savons bien que l'intention dépasse ce simple cadre et que s'il est éminemment souhaitable que le régime des Mollahs tombe, aujourd'hui, la contestation des Iraniens, elle sert un petit peu de prétexte à un certain nombre d'acteurs pour déployer un agenda qui existait nonobstant les souffrances du peuple iranien depuis maintenant près de 50 ans. C'est là où la question des intentions, quand même, laisse place à une forme de doute sur la légitimité des actions qui sont conduites contre l'Iran et qui pourraient dépasser de très loin la propre volonté de se débarrasser du régime des Mollahs. Et encore une fois, quand on commence à évoquer Gog et Magog, vous en avez parlé, Armageddon, etc., On n'en est pas simplement
oui,
dans...
Oui, mais je parlais d'un point de vue presque plus théorique, mais qui est presque plus... ce qui est plutôt le point de vue néoconservateur, en tout cas plus que le point de vue trumpiste, qui est dire, à partir du moment où il existe une tyrannie, que le peuple se soulève contre cette... que le peuple souhaite la fin de cette tyrannie, mais ne peut s'en libérer seul, est-ce qu'il faut soutenir... le peuple qui, je parle de point de, encore une fois sur un plan presque plus théorique, mais est-ce qu'il faut soutenir le peuple quitte à faire de l'ingérence étrangère, quitte à pouvoir créer de l'instabilité, etc.
Alors, je ne sais pas vous répondre d'un point de vue théorique. En tout cas, l'expérience démontre que le regime change depuis l'extérieur, ça ne fonctionne pas. Il y a aucun exemple de pays dont le pouvoir ait été renversé par l'extérieur et qui s'en soit porté mieux par la suite. Je crois que l'expérience libyenne, l'expérience irakienne devrait quand même nous alerter sur le sujet. Alors d'aucuns diront évidemment que ce n'est pas comparable, n'empêche que vous aviez à la tête de ces pays un oppresseur sanguinaire, oui. Et la volonté, pour les meilleures raisons du monde, de s'en débarrasser. D'un côté, ça a déstabilisé l'Afrique et ça a précipité la propagation du djihadisme en Afrique équatoriale. Et de l'autre, les prémices de Daesh, évidemment. Je ne parlais pas de la situation syrienne. Donc, y compris sur le plan très pragmatique, si vous voulez, les chances de succès d'une telle opération sont quand même relativement, relativement limitées.
Je veux dire, Rémy Tell, sur une histoire un petit peu plus ancienne, il y a quand même des exemples de telles situations qui ont fonctionné, et je suis au regret de le dire, hein, mais ça s'appelle la colonisation. Dans le sens où, si vous voulez, à partir du moment où effectivement on considérait par exemple les sacrifices humains comme immoral, à partir du moment où on considérait la guerre totale comme immorale, en tout cas à partir du moment où, quand les Européens sont arrivés dans d'autres continents, notamment l'Afrique et l'Amérique, ils ont vu des comportements immoraux d'un point de vue chrétien de la part des peuples autochtones, eh bien en fait, ils ont fait une forme d'ingérence extérieure en s'installant là-bas et en instaurant des lois morales. Et aujourd'hui, force est de constater que les Mexicains ne font plus de sacrifices humains.
Non, mais vous avez sans doute raison. Et a priori, moi, je vais plutôt regarder avec un œil assez bienveillant l'aide extérieure apportée aux Iraniens. Simplement, au fur et à mesure du déroulement de ces événements, je trouve qu'on assiste, et ça renvoie aussi à la question première qui était celle un peu de l'apocalypse, à une forme de dévoilement des intentions qui, en fait, utilise la souffrance des Iraniens
oui.
comme un argument de vente, mais qui n'est pas le véritable motif de l'intervention. Et donc, à mon avis, c'est une condition supplémentaire de son insuccès, en fait. Il est possible aussi que, de toute façon, tout cela doive arriver. Et c'est là où il y a quelque chose de l'ordre de la prophétie autoréalisatrice, peut-être. C'est-à-dire que de penser que cet affrontement aura lieu, en fait, ça en crée aussi les conditions.
Et c'est ce qu'on appelle le catastrophisme. C'est justement le principe du catastrophisme éclairé qui veut qu'en fait, à partir du moment où on tente de faire absolument tout pour se prémunir contre la guerre civile, ou contre même, ça peut être contre le changement, le réchauffement climatique ou d'autres sujets, on va dire, apocalyptiques au sens commun du terme, effectivement, on crée finalement les conditions favorables à ce que advienne cet apocalypse.
Oui, et je veux vous rassurer, Alexandre, et rassurer nos auditeurs, ça fait maintenant 2 ans ou 3 ans que je suis traité régulièrement d'agent sioniste et d'agent du Mossad. Je n'ai aucune forme de tendresse pour le régime iranien. Et comment dire, on ne peut pas, vous voyez, il n'y a aucune complaisance de ma part, mais simplement un doute sur la nature véritable des intentions. Qui sont celles aujourd'hui des Israéliens et des Américains, sachant qu'il n'y a pour le coup aucun doute sur la nature des intentions iraniennes, qui est l'anéantissement d'Israël et la précipitation de la fin des temps, puisque eux le disent de façon extrêmement claire, en fait.
Oui, c'est sûr. Et alors, Effectivement, on voit de manière générale que après ce, en fait, dans un certain sens, d'autres, un autre régime avait une logique un petit peu similaire. C'était, alors c'est pas pour faire un point Godwin, mais factuellement, le régime nazi avait finalement cette idée aussi de créer un monde en guerre qui permettrait l'avènement donc de d'un grand espace pour le peuple aryen germanique, grand espace de colonisation à l'est, et ensuite le fameux Reich pour Milan, donc la paix pour Milan. Encore une fois, une dimension de fin des temps qui existait déjà il y a près d'un siècle.
Oui, et si vous faites référence à la politique israélienne, il y a effectivement quelque chose de l'ordre du messianique, c'est-à-dire de forcer presque la main de Dieu pour l'arrivée du Messie, en réalité son retour, mais le pense-t-il son arrivée, et d'un Messie qui est perçu depuis l'Ancien Testament comme guerrier, vengeur, et qui accorde une victoire en réalité terrestre aux nations. On se rappelle que si le Christ n'a pas été reconnu par...
Mon royaume n'est pas de ce monde, bien sûr.
Non, s'il n'a pas été reconnu par les siens, c'est que les Juifs attendaient un Messie capable de leur apporter une victoire sur Rome et sur l'oppression romaine, même si, entre parenthèses, avec la conversion de Constantin, finalement, le christianisme a mis fin à l'Empire romain. Il a détruit l'Empire romain bien au-delà de la province galiléenne.
C'est compliqué. Alors, on s'embarque dans des conditions, enfin, des discussions historiques un petit peu lointaines, mais.
En tout cas, je pense qu'il y a cette attente encore aujourd'hui d'un Messie capable d'instaurer une forme de royaume terrestre pour le peuple d'Israël. Mmh. Et cette tentation peut-être d'en forcer la venue par le déclenchement d'hostilités et de quelque chose qui soit un peu irrémédiable d'une certaine façon.
Oui, il faut écouter les discours de Smotrich et de Ben-Gvir, en l'occurrence, donc on va dire l'extrême droite israélienne, pour parler de manière simple, on va dire, et à la droite, l'extrême, enfin, oui, le camp des religieux durs, et puis voilà, d'une certaine façon...
Oui. Juste sur ce point, j'ai fait des recherches pour vous hier. Pour ceux que ça intéresserait, on peut le retrouver en Ézéchiel 38, voilà, le triomphe final sur les nations, sur Gog et Magog. C'est donc dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 38.
Voilà. Merci pour cette précision pour nos auditeurs qui voudraient aller relire un petit peu Ézéchiel. Ça peut toujours être utile. D'un autre côté, Rémy Tell, il y a quand même cette idée que le millénarisme ou cette idée de fin des temps. Vous parliez de l'Empire romain il y a un instant. Je rappelle quand même que à l'époque des invasions barbares, on a des récits historiques, enfin des migrations barbares de la chute de l'Empire progressive, qui disent que ça y est, l'Empire romain s'effondre, c'est la fin du monde. On peut aussi se rappeler d'autres période dans l'histoire où effectivement des sommets d'horreur étaient atteints, notamment même je crois que pendant les guerres de religion ça a été le cas, et on se disait que ça y est, la fin des temps arrivait. Dans le fond même, d'autres se reposent sur des prophéties comme celle de Nostradamus ou d'autres pour prédire ça. C'est pas non plus un phénomène nouveau.
Non, alors depuis en fait...
Depuis la nuit des temps, on prédit la fin des temps.
Exactement, et on rappelle les paroles de l'Évangile, il ne se passera pas une génération avant que ces événements ne soient arrivés. Les apôtres eux-mêmes étaient convaincus que l'Apocalypse surviendrait avant leur mort terrestre. Et on trouve beaucoup de périodes dans l'histoire. Vous prenez avant l'an 1000, par exemple, ça avait posé un certain nombre de difficultés parce que les gens avaient cessé de travailler. C'est-à-dire, ils étaient convaincus que les temps se termineraient en l'an 1000, et donc ils ne faisaient plus rien. Donc, d'un point de vue économique, d'un point de vue... la subsistance de tous les jours, c'était très complexe. On peut penser évidemment au XIVe siècle avec la Grande Peste, considérée quand même qu'entre 1337 et 1348 de mémoire, la moitié de la population européenne va disparaître. Évidemment, oui, dans les tranchées de la Grande et dans les camps d'extermination en 1942, ce genre de réflexes étaient les mêmes. Il y a quand même une différence, Alexandre, si je puis me permettre, c'est que Le monde du péché et de la souffrance a toujours existé. Mais c'est un monde du péché et de la souffrance avec Dieu. La différence aujourd'hui, c'est que nous vivons dans un monde de péché et de souffrance comme depuis la nuit des temps, mais c'est un monde, en tout cas dans le monde occidental, c'est un monde d'apostasie. Et c'est un monde, d'une certaine façon, dans lequel la profanation est devenue un peu l'esprit de l'époque. Et c'est là où il y a une différence assez singulière quand même entre les temps anciens et aujourd'hui. C'est-à-dire que les malheurs, la guerre, les famines, les épidémies, à la limite, ont d'ailleurs plutôt régressé avec la modernité, comparé au siècle dernier. En revanche, cela se fait sans Dieu, et Dieu a été comme sorti de l'équation, voire même, et j'en termine par là, voire même, et c'est la question du transhumanisme, de l'intelligence artificielle intégrale, voire même l'humanité est tentée de se prendre elle-même pour Dieu. Et là, il y a une différence quand même de nature entre les temps anciens et aujourd'hui.
Et je conclurai moi-même cet entretien par une citation de la Confession d'un enfant du siècle de Musset, dans laquelle on peut lire « Lorsqu'autrefois l'oppresseur disait « À moi la terre, à moi le ciel » répondait l'opprimé, à présent, que répondra-t-il ? » Mais merci beaucoup Rémy Tell d'avoir abordé ce conflit sous un angle tout à fait nouveau et intéressant. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite, nous allons donc écouter Jérémy Combe pour sa chronique hebdomadaire et puis Tuc Duel Denis pour sa revue de presse.
Aidez Radio Courtoisie à rester libre et indépendante. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque de soutien à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite.
Bonjour Jérémy Combe.
Bonjour Richard, bonjour à toutes et tous.
Alors aujourd'hui, la question qui nous tarabuste chaque fois qu'on est chez les autres ou au restaurant, comment tient-on ses couverts à la française ?
C'est une bonne question parce que souvent c'est un spectacle, effectivement. À table, les couverts ne servent pas seulement à manger. Ils racontent aussi votre éducation. Beaucoup de personnes mangent correctement, mais sans vraiment savoir comment elles tiennent leurs couverts. Fourchette dans la main droite, on change de main, on coupe tout avant de manger. En France, la réponse est très codifiée et pourtant rarement expliquée. La tenue des couverts à la française est à la fois simple, élégante et mesurée. Pendant longtemps, manger était perçu comme un acte potentiellement grossier. Il fallait donc civiliser le geste. À partir du XVIIe siècle, dans les milieux aristocratiques puis bourgeois, on impose une règle claire. Le couteau dans la main droite, la fourchette dans la main gauche. C'était un peu dangereux et difficile pour les gauchers. Pourquoi ? Il ne fallait pas changer de main au cours du repas. Pourquoi ? Parce que changer constamment de main donnait une impression de fébrilité, voire de voracité. Tenir ses couverts avec stabilité montrait, au contraire, le contrôle de soi, la lenteur maîtrisée, la distinction sociale. À table, on ne devait jamais donner l'impression de se jeter sur la nourriture, à bon entendeur. Dans les grandes maisons, on repérait immédiatement quelqu'un qui ne maîtrisait pas ses couverts. Un invité qui coupait toute sa viande d'un coup, reposait son couteau, puis mangeait uniquement à la fourchette, était perçu comme quelqu'un d'impatient ou de mal formé. On disait alors, avec une pointe de condescendance, « il mange comme s'il était pressé ». Or, à table, ce pressé était considéré comme une faute de goût. Concrètement, à la française, la fourchette reste dans la main gauche, le couteau dans la main droite, on coupe un morceau à la fois, on ne coupe jamais tout le plat à l'avance, on mange calmement, sans geste brusque. Les poignets restent souples, c'est presque du sport, hein. Les gestes discrets, les mouvements contenus. La nourriture vient à la bouche. La bouche ne se précipite pas sur la nourriture comme un roseau fragile. Aujourd'hui, les règles se sont assouplies, surtout dans les repas informels. Mais dans un dîner professionnel, officiel ou élégant, la tenue des couverts reste un langage silencieux. Elle dit « je suis à l'aise, je respecte le moment, je ne suis ni pressé ni désordonné ». Ce sont souvent ces détails qui font la différence entre quelqu'un de simplement poli et quelqu'un de réellement élégant, Richard. La tenue des couverts n'est pas une question de rigidité, c'est une question de rythme. À table, l'élégance consiste à ralentir le geste pour laisser place à la conversation, au partage et à l'harmonie. À la française, on ne mange pas vite, on mange avec mesure, et parfois la vraie élégance tient simplement à la manière dont on tient une fourchette.
Merci Jérémy Combe.
Merci à vous.
Ligne droite, la revue de presse.
Et pour cette revue de presse, nous avons le plaisir de recevoir Tuc Duel Denis. Tuc Duel Denis, évidemment, chers auditeurs, vous le connaissez, c'est le directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Alors aujourd'hui, où nous allons parler de la nouvelle une de Valeurs Actuelles. Donald Trump, le pari à haut risque. Voilà pourquoi le monde entier retient son souffle. L'espoir du peuple iranien. Donc, Tugdual Denis, qui nous rejoint dans un instant, va nous expliquer justement pourquoi avoir choisi de parler de ce pari à haut risque, effectivement, de Donald Trump, d'autant que, évidemment, si l'Iran fait l'actualité, la question, c'est toujours sous quel angle sont traités ces sujets. Tugdual Denis, bonjour, est-ce que vous êtes avec nous ?
Oui, je suis avec vous depuis le début, cher Alexandre.
Ah,
vous m'entendez ?
Pardon. Oui, très bien. Donc, pourquoi finalement le pari à haut risque de Donald Trump, selon votre analyse, quel est ce pari en réalité ?
Bah, écoutez, je crois que les faits nous donnent un peu raison là en ce moment. C'est-à-dire que Donald Trump et Israël se sont lancés dans cette guerre avec quand même un pari à haut risque, puisque ils ne peuvent pas se permettre une guerre longue et que il faut, pour que leur plan se déroule de la meilleure manière pour eux, que le conflit soit le plus court possible et que la riposte soit quasi inexistante. Or, on voit que le régime iranien est tellement décentralisé, leur réserve de missiles peut être plus profonde que ce qui était envisagé, et que donc Donald Trump, puisque c'est lui que nous avons mis en une, prend le risque de décevoir des alliés occidentaux, de décevoir l'espoir du peuple iranien au cas où le conflit s'enlise, et aussi de décevoir la base MAGA, comme on dit, c'est-à-dire ceux qui sont les plus fervents, ses plus fervents partisans en Amérique du Nord, aux États-Unis, et qui ont voté pour Donald Trump sur un projet plutôt isolationniste qu'interventionniste, c'est-à-dire que Donald Trump leur a promis qu'il n'allait pas se lancer dans des guerres hasardeuses. Or, ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient est quand même pas extrêmement rempli de certitudes.
Et alors justement, vous évoquez aussi le sujet de l'Amérique latine dans ce numéro, pardon, évidemment aussi où Donald Trump met sa patte.
Oui, alors c'est une interview de Ingrid Betancourt que vos auditeurs connaissent évidemment, qui avait été candidate à l'élection présidentielle au Colombie, qui est franco-colombienne, qui avait été retenue otage par les FARC, et qu'on a interrogé effectivement sur la situation en Amérique du Sud suite notamment à la capture de Maduro, le dictateur vénézuélien. Alors Ingrid Betancourt salue plutôt le travail de Donald Trump là-bas, mais c'est un peu la même chose qu'au Moyen-Orient, ça laisse des cases vertigineuses à cocher, c'est-à-dire quel régime va remplacer celui de Maduro, qu'en est-il de la répartition des réserves d'hydrocarbures en Amérique du Sud, et pour le Moyen-Orient, l'Iran joue évidemment les monarchies du Golfe qu'elle agresse contre les États-Unis. Tout ça n'est absolument pas sans conséquence. On a vu le détroit d'Hormuz bloqué, qui va évidemment dérégler le commerce mondial d'hydrocarbures. Si vous voulez, la question n'est pas de savoir si le régime islamique terroriste de Téhéran est un régime condamnable ou pas, parce que bien évidemment qu'il l'est. C'est en revanche, si on détruit, par quoi on remplace ?
Oui. Et finalement, justement, on a même du mal à voir parfois quels sont les buts de guerre de Donald Trump dans ses opérations. Généralement, il y a celui qui est prétendu avant, celui qui est donné après, et puis d'autres mêmes objectifs qui arrivent dans le même temps. Vous avez aussi un article au sujet donc d'un de vos journalistes, quelque part, Marc Hainaut, qui a écrit donc un ouvrage dressant le bilan catastrophique de la Macronie.
Alors effectivement, vos auditeurs le connaissent bien, puisqu'il a une émission sur Radio Courtoisie, Marc Hainaut, qui est un journaliste de Valeurs Actuelles, et qui publie ces jours-ci chez L'Artilleur un livre sur le bilan d'Emmanuel Macron. Il a fait vraiment un travail de documentation assez impressionnant. C'est-à-dire qu'il allait rechercher depuis 2017 tout ce qui n'avait été fait ou détricoté ou détruit même par Emmanuel Macron. Et hormis les deux premières années, où on pourra citer pêle-mêle l'impôt à la source, le prélèvement à la source pour pour l'impôt sur le revenu ou la suppression de la taxe d'habitation ou la réforme du code du travail ou la réforme de la SNCF. En revanche, depuis, ce n'est qu'une succession de catastrophes, et notamment dans le domaine économique. Et pourtant, on se souvient qu'Emmanuel Macron, et Marc le rappelle dans son livre, avait sermonné ou fait la leçon à Marine Le Pen dans le débat d'entre-deux-tours de 2017, en lui expliquant qu'elle n'y connaissait rien dans l'économie et qu'avec elle, ce serait la faillite assurée. Mmh. Eh bien, Marc explique par le menu à quel point finalement le bilan économique d'Emmanuel Macron est vraiment catastrophique.
Un dernier mot peut-être sur votre aussi article sur l'étrange sponsor de Rima Hassan, le réseau financier de Lady Gaza, comme vous l'appelez.
Effectivement, merci de souligner cet article qui est signé d'un de nos nouveaux contributeurs qui s'appelle Yann Amel, qui est un journaliste d'investigation tout à fait expérimenté. Et en fait, il nous raconte cette histoire qui est assez peu connue du fait qu'un Tunisien suisse, ou un Suisseau-Tunisien, je ne sais pas comment on peut dire, riche à centaines de millions, sensible à la cause des Palestiniens à Gaza, est devenu un mécène important de Rima Hassan. Et ceci explique pourquoi Rima Hassan est autant sponsorisée au sens propre comme au sens figuré dans le débat public. Et c'est quelque chose dont elle ne se vante pas vraiment oui. sur ses réseaux sociaux. Pourtant, elle est très active. Mmh. Mais en fait, derrière Rima Hassan, et vos auditeurs qui liront cet article le découvriront en détail, se cache un système de financement digne des plus grands capitalistes qu'elle dénonce par ailleurs.
Voilà, et puis évidemment, des hommes d'affaires étrangers pour financer une eurodéputée française, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus patriotique, dirons-nous. Mais merci beaucoup pour tout ce travail, Tuc Duel Denis. Et puis on vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain numéro.
Zone libre.
Et c'est le début de la récréation avec les deux meilleurs chroniqueurs de cette radio, Richard de Sèze, Liselotte Dutreuil, après Tuc Duel Denis, après Jérémy Combe, après... Enfin bref...
La liste est longue, hein, le vendredi, il y en a beaucoup.
Voilà. Après
Alexandre Galzin également, on peut dire.
Oui, le vendredi, bah ça, Alexandre. C'est évident, mais après tout cela, donc vous êtes sans doute les meilleurs chroniqueurs. Alors, peut-être me tourner d'abord vers vous, Louis Rigaudier, vu que vous n'avez pas eu encore une zone libre hier.
Oui, malheureusement, ça manque.
Alors, apparemment, vous voulez parler de sujets politiques.
Oui, non, mais alors vraiment, l'actualité est tellement monotone ce matin. Iran, toujours et encore. Je me suis rappelé que la saison dernière, j'avais une petite chronique sondage et donc j'en profitais pour évaluer un sondage tout récent qui venait de sortir. Et évidemment, je suis certain que vous l'avez vu passer, cher Alexandre, qui évalue les candidats, le score des candidats la prochaine présidentielle. Oui. Et vous avez sans doute vu ce score absolument extraordinaire, même historique, je crois que c'est de mémoire, enfin vraiment dans toute l'histoire de la 5e à un an d'une élection, on n'a jamais vu un tel score pour Jordan Bardella et Marine Le Pen d'ailleurs, qui a plus de 36%. Oui. C'est quand même extraordinaire, qui surpasse complètement le bloc central qui lui est à 15% et la gauche, on n'en parle même pas.
Voire dans certains sondages, seulement à 12%, c'est-à-dire qu'il y a quand même ce chiffre hallucinant d'un sondage où le ticket d'entrée est à 12% rentrer au second tour, c'est-à-dire 3 fois moins que Jordan Bardella.
C'est ça qui est assez extraordinaire et je rebondis là-dessus parce que je vais soumettre une idée qui n'est pas de moi, qui est de l'écrivain Romain Guérin, que les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent sans doute. Je vous lis sa proposition. Au regard du seuil de qualification très bas, ce que vous venez de dire Alexandre, pour le second tour de la présidentielle, le RN devrait présenter 2 candidats. On aurait comme ça un duel RN au second tour et le RN serait certain de l'emporter. Oui. Alors franchement, c'est assez
vrai
génial.
Alors, ce serait un coup démocratique assez fort, mais évidemment, bon, c'est le genre de chose qui ne peut pas marcher. Mais dans le fond, Paris audacieux et amusant.
Oui.
C'est toujours amusant d'avoir de la politique fiction. Mais je voudrais venir quand même sur des sujets un petit peu plus importants que celui dont vous venez de parler. Parce que voilà, la présidentielle, c'est quand même assez accessoire comparé à ce que Magda a nous dire, je crois.
Mais effectivement, moi, c'est tout aussi important, c'est un énorme scandale. Je pense que c'est plus important et dans le sens où même je pense que ça aurait mérité d'être dans le flash info d'aujourd'hui parce que la tricherie n'a plus de limite. À Al Moussaana, le concours de beauté de chameau organisé cette année a été secoué par un scandale que peu de monde aurait pu imaginer. Alors en effet, pas moins de 20 chameaux ont été disqualifiés pour avoir reçu des injections de Botox et autres produits de comblement. Ces animaux qui sont jugés selon la robe, le cou, la tête, leur bosse, se sont vus injecter pour certains de l'acide hyaluronique sur leur visage et également sur leur boss afin de leur donner une silhouette encore plus ronde, encore plus belle.
Je vais vous dire, c'est pas des images qu'on aime voir, ça. C'est pas l'esprit Coubertin, c'est pas le sport que je connais. En étant des Jeux Olympiques, c'était pas défendable de faire ça. Enfin,
c'était pas du tout défendable. Et surtout, c'était sponsorisé par Coco Chanel, non ? C'est la première fois parce que en 2021, 43 chameaux avaient été disqualifiés pour les mêmes raisons.
Oh la vache.
Tout comme en 2018, 14 chameaux. Enfin, voilà, un vrai scandale.
Personne ne suit le sport.
Faire un sujet sur ligne droite.
C'est plus l'esprit du sport. Et peut-être que Magda, vous pourrez inviter une ou deux de ces chameaux à la prochaine.
Ah, avec plaisir.
Mais non, c'est non, plus sérieusement, je trouve ça dramatique. Honnêtement, c'est vrai que peut-être qu'on fera un entretien, le grand entretien de lundi sera ce sujet, cher auditeur.
Sans aucun doute.
Voilà, c'est évidemment donc, cette manière. Mais ça, c'est, je vais vous dire, c'est notre société moderne qui produit ça. Merci beaucoup Magda de tout fait, merci beaucoup Louis Rigaudière et Arnaud, merci chers auditeurs de supporter un petit peu de rire et de bêtises à la fin de ces matinales. C'est toujours agréable de se détendre un petit peu après avoir traité de sujets aussi sérieux. Oui. C'est la fin du live du direct,
oh là là là.
Oui pardon, mais à maxima culpa, je parle en latin pour compenser, mais c'est la fin du direct sur X et sur YouTube. Chers auditeurs, merci beaucoup de l'avoir suivi, on a besoin quand même de vous.
On attend de vous que vous nous supportiez financièrement. C'est primordial
pour nous.
Soutenir, vous avez tout à fait raison, excusez-moi. Donc je vous invite à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris. Merci beaucoup.
Voilà, merci beaucoup. Et puis tout de suite, on va écouter Pierre Gentillet, Antifa ou Némésis. Qui sera dissous le premier ? C'est la question qu'on lui a posée.
Ligne droite. Debout les Français.
Pierre Gentillet, bonjour, merci de nous recevoir ici à Argenton-sur-Creuse, où vous êtes d'ailleurs candidat à la mairie pour les élections municipales.
Merci à vous de vous déplacer jusqu'ici avec votre studio.
Mais c'est avec un grand plaisir, c'est une ville magnifique. Alors, on va parler d'un sujet qui est assez différent, qui est quand même celui de, évidemment, après l'affaire Quentin, plusieurs questions se sont posées sur le droit des associations dont vous êtes spécialiste, et particulièrement sur la question des dissolutions. La première question que je voudrais vous poser se situe plutôt au niveau de la Jeune Garde. La Jeune Garde donc, qui avait subi une procédure de dissolution sous Bruno Retailleau, qui a déposé un recours. Est-ce que actuellement il y a des fondements juridiques qui permettraient d'inculper les membres de la Jeune Garde pour reconstitution de Ligue dissoute, notamment avec leur groupe éteignons la flamme, Génération antifasciste? Est-ce que par le fait qu'ils se réunissent et qu'ils mènent des actions visiblement violentes ensemble, on pourrait les inculper?
Alors, peut-être déjà expliquer un petit peu pour nos auditeurs ce que ça signifie. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur a la capacité de dissoudre une association. Une association, ça peut se dissoudre volontairement, ça peut aussi être dissous par la contrainte. Donc c'est un décret, donc c'est une décision importante, qui est prise par le Premier ministre ou par le Président et paraphée par le ministre de l'Intérieur. C'est le ministre de l'Intérieur qui la motive en Conseil des ministres. Donc si vous voulez, on ne dissout pas des associations tous les jours. Donc c'est une mesure importante, grave. Pour la Jeune Garde, le décret de dissolution est paru, il a été attaqué devant le Conseil d'État, il y a deux recours. Un premier recours devant le Conseil d'État en référé qui a échoué, et un deuxième recours qui est en train d'être examiné et qui devrait normalement trouver sa conclusion d'ici quelques semaines ou un mois, en tout cas dans les prochains jours, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois. Donc la Jeune Garde aujourd'hui, elle est dissoute. C'est ça ce qu'il faut bien comprendre. Il y a un recours, mais le recours n'est pas suspensif. Ouais. On entend beaucoup parler de ça, vous savez, pour d'autres affaires de procès. Mmh. Ici, le recours, il n'est pas suspensif. La Jeune Garde, elle est dissoute. Si jamais le Conseil d'État venait à annuler cette dissolution sur le fond, parce que je dis qu'il y a encore un recours, alors effectivement, là, ça changerait tout. Mais pour l'instant, elle est dissoute. Il y a une sanction immédiate à la dissolution, c'est le fait que, concrètement, pour ceux qui ont une association, vous le savez, vous ne pouvez plus utiliser votre compte en banque, vous ne pouvez plus vous réunir, enfin bref, il n'y a plus de... Vous n'avez plus de site internet, vous n'existez plus, si vous voulez, parce qu'une association, c'est une personne morale, concrète, en plus, qui fait écran. La sanction n'est pas simplement la dissolution, ici. C'est l'interdiction de reconstituer la même association, mais cela s'est pris de manière assez large. Je m'explique. En 1936, je crois, c'est cette loi qui a été adoptée à ce moment-là. Alors, je ne sais plus quel est exactement le nom de cette loi, mais elle est parue au moment du Front populaire, puisque je crois que c'est Léon Blum qui avait fait, le gouvernement Blum qui avait fait adopter cette loi. Vous savez qu'à l'époque, il y avait un certain nombre d'agitations, de groupements, de ligues. Et ce gouvernement a fait passer une loi précisément pour la dissolution de groupuscules radicaux. Et cette loi a été utilisée. Si une structure qui est dissoute décide de se reconstituer sous une forme légale déclarée ou non, alors elle encourt ce que vous venez de dénoncer, c'est-à-dire le délit de reconstitution de ligue dissoute. C'est-à-dire que concrètement, si demain, Raphaël Arnaud ou d'autres membres de la Jeune Garde décident de recourir aux mêmes actions, alors le Conseil d'État, il y a une jurisprudence là-dessus qui n'est pas très fournie, parce que des dissolutions d'associations, il n'y en a pas tous les jours, si vous voulez. Le Conseil d'État, pour voir s'il y a une reconstitution de ligue dissoute, il va procéder par faisceau d'indices. Il va regarder si ce sont les mêmes membres qui se regroupent. Il va regarder aussi si ce sont les mêmes modes opératoires. Vous voyez, on a beaucoup insisté, notamment dans la Jeune Garde, sur le côté un peu milicien, hein, au sens des milices privées, qui se font justice elles-mêmes, notamment à Lyon, etc. Il va regarder aussi les sigles qui sont utilisés, le code couleur. Et on sait que les Antifa ont un code couleur, et la Jeune Garde avait un logo. Bref, s'il voit que non pas tous les éléments sont réunis, mais qu'un certain nombre d'éléments sont réunis, même si le nom est différent, hein, vous m'entendez, même si le nom est différent, alors il
est informel. Est-ce qu'ils ont besoin de recréer une association juridique ?
Non, absolument pas, je vous ai dit. C'est-à-dire, on parle d'une association de fait ou déclarée. C'est-à-dire que même s'ils ne recréent pas une association, s'ils fonctionnent comme le ferait une association sans avoir déclaré quoi que ce soit, concrètement, si demain la Jeune Garde recommence ses ratonnades, réutilise un code couleur qui est après le même et avec les plus ou moins les mêmes membres, plus ou moins les mêmes dirigeants, alors ceux qui se seront rendus coupables de tels agissements, le simple fait de refaire leurs actions, en cours, le délit de reconstitution de ligue dissoute, c'est un délit assez lourd, puisque si ma mémoire est bonne, c'est une peine de prison. J'essaie de retrouver exactement, il me semble que c'est 3 ans d'emprisonnement et une amende de plusieurs dizaines de milliers d'euros. En tout cas, voilà, c'est une sanction importante, lourde. Elle est rarement prononcée pour une raison toute simple, c'est que des dissolutions d'associations, il n'y en a pas tous les jours, si vous voulez. Mais là, en l'occurrence, j'ai bien vu que la Jeune Garde essayait, en tout cas, un entourage proche de la Jeune Garde, de cette mouvance Antifa, essaie de reconstituer. Vous parliez d'une structure qui s'appelle
Éteignons
la flamme, avec une botte qui éteint. En réalité, si vous voulez, ça pose une question plus large, qui est celle du mouvement Antifa. Parce qu'en fait, tout le mouvement Antifa est un copier-coller de la Jeune Garde, si vous voulez. La Jeune Garde, c'est la pointe la plus avancée, la plus milicienne et la plus visible des Antifa. Mais les Antifa, il y a des groupements Antifa partout et qui fonctionnent de la même manière que la Jeune Garde. C'est-à-dire que concrètement, demain, vous avez un rassemblement de Marine Le Pen ou d'un autre parti de droite à tel endroit. Ils viennent, ils font une contre-manifestation, ils en ont le droit, très bien. Et puis, accessoirement, ils traquent aussi les militants, on le sait bien, aux abords des meetings. Parfois, ils leur tombent dessus. Voilà, ils font des actions de rue, des actions violentes. Mais ça, si vous voulez, en fait, c'est tout le mouvement Antifa qui devrait être dissous. Et on peut dissoudre le mouvement Antifa. On peut. On a déjà, d'ailleurs, dissous certains groupements Antifa. Ce qu'il faudrait, c'est à la fois les dissoudre et en même temps les classer terroristes.
Parce qu'en en fait, il y a une forme de... Certains politologues, je pense notamment à Jean-Yves Camus, ont pour principale théorie, alors là, je sors un petit peu du domaine juridique, que la dissolution des groupes, finalement, est assez nuisible dans le but de
pouvoir... les renseignements généraux.
Exactement.
Parce que, si je termine votre phrase, cela signifierait qu'on peut plus difficilement les identifier. C'est vrai, et en même temps, j'ai envie de vous dire, aujourd'hui, par les moyens informationnels, par les technologies très avancées des services de renseignement, ils peuvent consulter, moi je l'ai vu pour des dossiers de dissolution, tout, c'est-à-dire les boucles Telegram, vos mails, tout, ils ont accès absolument à tout, vous n'imaginez pas. Donc en réalité, même si demain, vous voyez, la Jeune Garde est dissoute, ça ne les empêche pas d'avoir une discussion Telegram. Donc en fait, ça n'empêche pas les services de renseignement de continuer à épier un petit peu. Et en même temps, si vous voulez, je pense qu'il y a aussi un impératif. Jean-Yves Camus disait ça pour les groupes d'extrême droite.
Notamment.
Mais parce que, en l'occurrence, si ce n'est pas arrêté de les surveiller, c'est vrai, mais Je pense que la violence d'extrême droite, elle est incomparable à la violence d'extrême gauche. Je sais bien qu'on a une opération d'intoxication fantastique pour nous expliquer que l'extrême droite agresse ou tue 10 fois plus que l'extrême gauche. On met les milices turques là-dedans, accessoirement. Voilà, on met une espèce de grand foutoir général. Il y a Paul Sugy qui a fait une très belle intervention là-dessus, d'ailleurs, sur le service public, pour expliquer à quel point cette méthodologie était grotesque, mais vraiment grotesque. Hein. Tout est d'extrême droite à ce moment-là, si vous voulez. Donc même Daesh devient d'extrême droite.
Oui, et puis après, il faut évidemment séparer ce qu'est un crime politique. En l'occurrence, la mort de Quentin Durand se rapproche assez. Alors que, par exemple, si on prend l'affaire Le Priol à l'inverse, elle ressemble beaucoup moins, justement, à une affaire de mort politique.
Ou même ce qui s'est passé à Châteauroux, puisque là, nous sommes dans l'Indre. Et à Châteauroux, un ancien candidat, mais dans les années 80-90, je ne sais plus exactement l'histoire, il y a eu des tirs avec...
Un ancien candidat du FN en 1993,
c'est ça.
Qui a tiré contre la police.
C'est ça, qui a tiré contre la police, qui manifestement était un peu déséquilibré. Alors là, étrangement, personne ne retient déséquilibré, mais encore une fois, comment vous dire, quel est le mobile? C'est ça ce qu'on veut regarder. Est-ce que ce délit, voire ce crime, s'il y avait des gendarmes qui étaient blessés ou tués, plutôt tués sur un crime, est-ce qu'il a une motivation politique? C'est comme ça qu'on répertorie les violences politiques. C'est pas simplement de voir si quelle était la carte d'adhérent de cette personne. Vous avez mentionné aussi tout à l'heure le meurtre de ce rugbyman rue des Canettes, dans le 6e arrondissement de Paris. Mais est-ce que la motivation était politique? C'est ça ce qu'il faut voir. Ça me paraît être la méthodologie absolument de base. Voilà. Pour Quentin, on a des éléments très concordants sur le caractère politique, sur les motivations politiques de ce meurtre. Voilà. Donc reste à voir maintenant si c'est un assassinat avec le caractère prémédité, etc. Ça, c'est l'enquête qui va le déterminer. En tout cas, il y a un jeune homme qui a été lynché mortellement. Voilà.
Une des premières réactions certains politiques et même du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a été aussi de cibler des groupes qu'on pourrait qualifier de droite ou d'extrême droite. D'abord, le Bloc Montpellierin et une autre association, je crois, albigeoise, qui, pour le coup, sont de mouvances identitaires et dont la dissolution a été prononcée. Et surtout, plusieurs membres de la France Insoumise et même des écologistes et d'autres membres de l'extrême gauche ont finalement proposé la dissolution du collectif Némésis.
De toute façon, je vais vous dire une chose, tout ça participe d'un grand contre-feu général. Je l'ai bien vu sur les réseaux, on est nombreux à l'avoir vu. Depuis la mort de Quentin, il y a quelque chose qui a changé, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la gauche, l'extrême gauche, est tout azimut à essayer de traquer le moindre petit débordement, vous voyez, ce qui s'est passé à Châteauroux ou autre, pour essayer d'y mettre une équivalence. Parce que toute la mythologie du mouvement antifa et de l'extrême-gauche, qui aujourd'hui d'ailleurs fait l'objet de je ne sais combien de reportages, pour nous expliquer qu'ils sont dans une posture défensive.
Oui.
Là, depuis un mois, je ne sais pas depuis combien de temps, ça fait 3 semaines que Quentin a été tué à peu près, on assiste vraiment à un effort désespéré de toute la gauche, et notamment la gauche radicale, pour essayer de renvoyer, c'est même pas de renvoyer dos à dos, c'est presque nous expliquer que la violence antifa, violence meurtrière, est une violence en réaction. Et c'est presque, c'est pas presque, c'est pour nous expliquer que c'est de la légitime défense. Et on nous dit antifa, c'est bien une réaction, c'est contre. Mais c'est ne pas comprendre ce qu'est le mouvement antifa, ce n'est pas comprendre, c'est ne pas vivre, moi, comme je l'ai vécu lors des élections étudiantes. Alors c'était peut-être un peu plus, c'était sans doute plus doux, en tout cas à l'époque, et c'était certainement moins dramatique, évidemment. Mais ce sont des gens. Moi, ce qui est arrivé, malheureusement, pour Quentin, ne m'a pas surpris. Ça n'a pas surpris. Et aujourd'hui, on a tout un travail de sape, justement, depuis quelques semaines, depuis la mort de Quentin, pour mettre des équivalences. On a des spécialistes autoproclamés, qui, d'ailleurs, bien souvent, viennent sur les plateaux de télévision de BFM. Alors là, on ne leur demande pas leur pédigré. On apprend après qu'ils sont intervenus à l'Institut La Boétie, dans des meetings de Jean-Luc Mélenchon. Là, étrangement, la neutralité s'efface complètement. On a des historiens... qui peuvent au demeurant avoir qui peuvent être des historiens de qualité, mais qui se fourvoient complètement. Je pense notamment à Yann Chapoutot, qui nous expliquait que c'est ça, c'est-à-dire que le mouvement antifa aujourd'hui serait, aujourd'hui et depuis l'origine, un mouvement en réaction, et donc finalement de légitime défense par rapport à une violence d'extrême droite qui, elle, serait excessive. Et encore une fois, toujours avec la méthodologie aussi trompeuse pour nous dire que l'extrême droite tue plus en mettant les milices turques et tous les mouvements nationalistes étrangers dans le lot des violences d'extrême droite.
Il nous reste une minute, Pierre Lantier, simplement sur la question de la dissolution du collectif Némésis. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible et envisageable au vu des éléments qu'il y a actuellement ?
Alors, c'est toujours problématique. Comme je dois faire en une minute, je serai assez rapide. La loi qui prévoit la dissolution administrative, qui est codifié l'article 212-1 du Code de la sécurité intérieure, est une loi très puissante, très très puissante. Elle permet de facto de dissoudre assez largement un grand nombre d'associations politiques. Il y a un certain nombre de conditions, mais si vous voulez, c'est tellement subjectif. Par exemple, on peut dissoudre une association qui incite à la haine, qui incite à la discrimination. Vous voyez, le simple fait de dire on veut instaurer une préférence nationale, c'est vouloir une discrimination, c'est-à-dire faire une distinction entre les Français et ceux qui ne sont pas Français. Et donc, si on appliquait à la lettre cet article 212-1, on pourrait inventer des dissolutions. L'article 212-1, c'est un article sur la dissolution qui est un article très puissant et de facto, on peut dissoudre malheureusement beaucoup d'associations. En l'occurrence ici, moi je pense que le collectif Némésis, qui ne participe à aucune action, qui se contente de mettre la focale sur, en tant que féministe, sur un certain nombre de violences qui sont mises de côté par les féministes de gauche, il n'y a aucune raison de le dissoudre. Encore une fois, cette association, elle ne fait peser aucun risque sur l'ordre public. Némésis n'agresse pas des gens dans la rue, ils ne lynchent pas mortellement. Voilà, ils interviennent dans les meetings pour montrer qui est Jean-Luc Mélenchon et montrer qui sont les gens de gauche. Accessoirement, quand les FMN intervenaient, quand il y avait des actions de gauche au meeting de Marine Le Pen, là, bizarrement, quand les gauches intervenaient et qu'ils étaient un peu réprimés par le service d'ordre, on disait « Regardez, c'est des violences politiques ». Là, quand Némésis veut faire la même chose et qu'elle a le malheur de passer par un service d'ordre, on dit « Ce sont des dangereux factieux ». Vous voyez, le deux poids, deux mesures, il est toujours total.
Merci beaucoup, Pierre Gentil.
Merci à vous.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle matinale. C'était un grand plaisir pour nous de pouvoir terminer cette semaine avec vous en votre compagnie. On est très heureux d'avoir pu être là pour traiter tous ces nouveaux sujets. Comment on fait pour que Ligne Droite soit là dès lundi?
Pour que Radio Courtoisie soit là dès lundi.
Mais que
tout
Radio
simplement.
Courtoisie soit là dès 10h.
Pour pérenniser ce beau projet qui dure depuis bientôt 40 ans, qu'est Radio Courtoisie, nous comptons sur votre générosité. Vous pouvez nous faire des dons en ligne sur cette adresse, notez-la bien, soutenir.rc.fr, et également envoyez vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris.
Vous n'êtes que 2% à donner, on ne peut pas se reposer sur si peu de gens, il faut absolument que vous soyez plus, chers auditeurs, pour que ça marche mieux, pour que vos idées soient diffusées partout et que justement toutes ces causes qui vous tiennent à cœur fonctionnent. Quel est le programme du jour, Arnaud, autrement ?
Vos grands rendez-vous de ce vendredi 6 mars, tout à l'heure à midi, en direct, Tout est politique, dirigé par Thomas Gabriel. Le sujet du jour, deux témoins qui s'engagent pour redresser la France. À 17h, Histoires à la loupe, émission dirigée par Patrick Simon. Marie-Josette Liégeois, troisième partie. À 17h30, Restons Courtois, dirigé en direct par Marc Baudrier, à suivre également sur la chaîne YouTube de Radio Courtoisie ainsi que sur X. Les sujets de ce Restons Courtois du jour, le conflit iranien va-t-il toucher la France et comment ? Second sujet, dissuasion, quand Macron disait que le nucléaire, ça sert à rien. Le conflit iranien est 3 semaines après le lynchage de Quentin, l'État macroniste cible l'extrême droite. À 19h30, en direct également, le Libre Journal des Artisans, dirigé par Benoît Aguelon et Benoît Duchâtelet. Et puis ce soir, à partir de 21h30, le Libre Journal du Monde de la Foi, dirigé par Nicole Pilorge, L'Autre Rive. Et nous terminerons la journée avec Patrick Banken et l'émission Chant Grégorien, consacrée cette semaine au troisième dimanche de Carême.
Merci beaucoup Arnaud, et puis moi de mon côté, je vous dis à lundi.
À lundi.